Vous écoutez
RMC.
D'abord, mais d'abord, on va lancer le choc de Ligue 1, dimanche 20h45 à suivre sur RMC, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. Dès maintenant, jusqu'au coup d'envoi, il y a toutes les infos à retrouver sur RMC, sur ce classique et bien sûr sur rmcsport.fr. D'ailleurs, j'ai quelques infos à vous donner, messieurs, à l'issue des entraînements du jour. Côté marseillais, d'abord, Samuel Gigot devrait bien être forfait, il s'est entraîné à part aujourd'hui. On rappelle aussi la suspension, Jonathan, de Chancel Mbemba, ça c'est un gros coup dur.
On doit en reparler de ça, de cette ânerie-là, de ces incapables qui sont dans l'impossibilité de se réunir en temps et en heure pour que Bamba soit suspendu contre le TFC. Non mais ça, faut pas me relancer là-dessus parce que ça va me chauffer.
On te relance pas du coup. Tudor qui va devoir changer.
Heureusement qu'il était là du coup contre le TFC.
C'est pas faux.
Nouvelle fois, c'est vrai, bonne remarque. Tudor qui va devoir donc du coup changer une nouvelle fois ses hommes en défense et c'est là où on a plusieurs options.
Et là, c'est le drame, tu peux le dire.
Non, pas forcément.
Bah,
en tout cas,
si, c'est le drame.
Il y a une option, c'est faire confiance à un trio Balerdi, Bailly, Kolasinac.
Oh non.
Non, pas celle-là. Alors, il y a une option qui tiendrait la corde, Jonathan. Ce serait celle de faire descendre Rongier d'un cran.
Comme lors du match de coupe,
effectivement, mais il n'y avait pas Mbappé en face. Hein. Et c'est Bailly qui pourrait être chargé justement de ce rôle-là, de suivre un peu Mbappé partout, comme l'avait fait très bien Mbemba aussi également.
Et à gauche. Kolasinac.
Bah, à gauche, pour l'instant, oui, ça serait Kolasinac, peut-être, plutôt
que. Jusque-là, ça va.
Bailly, Rongier, Kolasinac, si tu préfères.
Oui, avec à gauche, Tavares, qui n'était pas là, en Coupe de France, et à droite, Jonathan Clauss. Écoute, moi, ça me semble être la solution la plus viable, parce que, je n'ai rien contre lui. C'est vrai que, il y a eu une période où il a fait 3-4 bons matchs d'affilée. Les gens se sont dit, ah, tu vois, t'es sévère, mais non. Balerdi, ça n'a pas le niveau de jouer ce genre de match. Le problème de Balerdi, c'est qu'il peut être bon 89 minutes, t'as l'impression que c'est vraiment le prospect que l'Ajax sur qui l'Ajax est prêt à mettre de l'argent, etc. Et puis il va avoir une minute où ça va, les fils vont se toucher, il va faire la cagade, ça va coûter un but. Quand tu es en face d'une équipe où il y a un joueur à surveiller comme le lait sur le feu en la personne de Kylian Mbappé, faut pas mettre Balerdi. Donc tout sauf Balerdi sur ce match.
Non, là pour le coup je suis d'accord avec Jonathan. Quand tu as Kylian Mbappé en face, déjà après Balerdi, il a des carences qu'on connaît, c'est-à-dire que dans certains duels physiques, on l'avait vu contre Openda, on l'avait vu contre certains avancements de Ligue 1, il est en difficulté aussi au niveau de la vitesse. Bien sûr, il a une relance qui est très correcte, il a une technique, voilà, c'est un Argentin, il joue au ballon,
mais le
placement, la vitesse et le physique dans les duels, dans les impacts. Pour l'instant, comme dit Jonathan, en tout cas, pour l'instant, il n'est pas encore au niveau de match de très haut niveau comme
dans les tests physiques, c'est un des joueurs les plus rapides.
Ah ben je sais pas, alors il est rapide peut-être ce...
Et vu du stade, je t'assure que c'est impressionnant.
Ouais.
Les fois où je l'ai vu jouer en vrai, alors certes, il était minable, c'était le match contre en Ligue des Champions contre les Allemands là,
Francfort. Ouais.
Mais il est extrêmement rapide et c'est ça qui est encore plus frustrant. C'est les choix, je pense que son problème c'est vraiment la tactique défensive pure, le placement, le fait de se positionner avec son latéral, et c'est compliqué quand t'as un joueur comme Mbappé en face.
Bon, on aura d'autres infos bien sûr sur cette compo marseillaise. Côté PSG, il y aura aussi des absents bien sûr, puisque Neymar ne sera pas là.
Bah, mal pour un bien.
Il y a pas mal de doutes aussi, puisque lors de l'entraînement, bon, il y a Hakimi quand même qui a fait l'entraînement, Moukielé aussi, Nuno Mendes, Galtier qui a dit en conférence de presse que Achraf a fait une partie de la séance, donc Achraf Hakimi, et qui le testeront demain pour voir s'il peut jouer contre l'Olympique de Marseille. Moukielé est proche d'une place de titulaire quand même.
À quel poste?
Latéral. Au poste justement de latéral droit, ouais. Sans doute. Parce ouais. qu'ils ont pris, il le dit, hein, Galtier, mon staff a pris l'initiative de faire travailler Warren Zaïre Emery sur le côté droit, mais c'est au milieu qu'il est le plus performant. Donc si jamais Moukielé ne peut pas tenir sa place, ils ont quand même testé Zaïre Emery.
Ça m'a l'air d'être un pétrin pour un jeune joueur qui n'a rien demandé, qui est pétri de talent et qui a besoin d'être développé, qui est formé au club. Et de le lancer dans un bourbier, dans un match contre l'Olympique de Marseille, dans un classique, c'est tout sauf lui rendre service. Donc j'espère pour ce jeune-là que ça ne se fera pas.
Ils l'ont mis en Ligue des Champions, c'était pas un cadeau non plus.
Ouais.
Et puis il y avait 32 000 personnes quand même présentes au parc. Hein,
combien de bobos ont payé?
Non mais alors... Ça, justement, certains ont payé leur place entre 5 et 15 euros.
Après, faut pas les appeler les gogos s'ils ont envie d'emmener leurs enfants pendant les vacances voir le Paris Saint-Germain.
Et attention, Jonathan, parce que déjà, c'est un événement. C'est la première fois depuis 11 ans que le PSG organise comme ça un entraînement au Parc des Princes. Il y avait des banderoles, on les a vues, et eux, ils n'ont pas payé. Ce sont ceux qui sont abonnés au parc.
Oui, les
ils
abonnés
sont venus
payé,
sans payer. Et ils avaient le droit aussi à un plus 1, tous. Donc quand même, ça réduit le nombre de gens qui ont payé cet événement. Et puis bon, voilà. Après, on peut juste regretter peut-être qu'ils n'ont pas fait un entraînement très poussé. C'est évidemment une série de jongles, des petites courses. Oui, voilà.
J'ai vu quand même de la finition devant le but.
Oui, ils ont testé ça un peu à la fin.
Mais ils ont pas fait.
Et ça a duré une heure.
Encore eux qui ont mis en place tactique devant le public.
Non, mais ça a duré une heure. Donc quand même, on peut estimer qu'ils en ont eu pour leur argent.
Non, mais il y a un moment, on peut pas tout critiquer. D'ailleurs, ça se fait aux Pays-Bas. En tout cas, moi, je l'ai connu et ça se fait encore maintenant. Avant le classiqueur entre l'Ajax et Feyenoord, souvent, alors c'est pas dans le stade, c'est pas dans l'Arena ou dans le Kuip, mais c'est dans le stade d'entraînement qui sont des stades à capacité aussi et qui peuvent accueillir comme ça les supporters. Et c'est bien.
Ça ne choque pas qu'il y ait des places soient payantes?
Non mais après choqué pas choqué ça reste l'économie.
Non mais dans le contexte.
Non mais ça reste l'économie du Paris Saint-Germain.
Où t'es un club qui a quand même pas de difficultés financières et où il y a quelque chose qui est un peu cassé avec tes supporters. Faut quand même le
oui l'avouer. Non mais oui,
et
je l'entends.
Moi, je pense que ça aurait été de bonne aloi que de faire ça totalement gratuit pour envoyer un geste en plus. Ils l'ont fait le geste, hein, les joueurs, en allant saluer le public après le match du Bayern. Ça aurait été un geste en plus en disant on essaye quand même de recréer une sorte d'union sacrée pour la fin de saison.
C'est ce que je ferais. Parce que tu sais que quand tu payes aussi, il y a plus, peut-être aussi pour la sécurité du stade, etc. J'aurais reversé le, pour les déplacements des supporters.
Oui. Voilà.
Bon, on va s'arrêter là sur cet entraînement du Paris Saint-Germain.
J'ai trouvé quand même que c'était bien qu'il y avait quelques bandes, un entraînement.
Notamment une fois, pas deux, soyez sans pitié avec eux. Kylian, aucun état d'âme, ici c'est Paname. Voilà un peu l'esprit des banderoles pour les supporters du Paris Saint-Germain. Tiens, tu as la parole, Jonathan.
Le ciel là.
Jonathan, c'est ton avis.
T'as une équipe qui reprend, qui affronte des équipes qui, elles, sont déjà sur le pied de grue.
Et le pied de grue, fameux pied de grue. L'OM, alors c'est pas l'OM peut tout perdre, c'est pas ça ton avis, mais c'est en gros quand même que la pression, ça peut être un tournant pour l'Olympique de Marseille ce match.
Moi, pour moi, c'est un réel tournant. On va essayer de se remettre dans le contexte des objectifs de l'OM en gardant la tête froide. Pour moi, l'objectif numéro un de l'Olympique de Marseille, ce n'est pas de finir champion, même si évidemment, si Marseille a l'opportunité de jouer le titre, il faut le jouer jusqu'au bout, mais c'est de finir second. Non pas troisième, mais second. Derrière, tu as une équipe de Monaco qui revient très fort et qui, comme son habitude, est en train de nous faire une seconde partie de saison en boulet de canon. Et puis, tu as ce match face au Paris Saint-Germain qui semble être une bête un petit peu blessée, en même temps que le match donc de Monaco face à Nice. Écoute, sur ce match-là, Marseille peut perdre beaucoup de choses parce que il y a encore des gens qui ont, et moi j'en fais un petit peu partie, qui ont cette illusion de penser que Marseille peut éventuellement jouer le titre. Mais il faut aussi regarder derrière, et derrière il y a Monaco qui revient, comme je le disais. Donc tu vas aborder ce match contre le PSG avec un PSG sans Neymar, c'est un plus pour les Parisiens vu le rendement et la vampirisation tactique que t'inflige le fait d'avoir Neymar dans ton effectif à l'heure actuelle. Tu vas aborder ce match avec le retour de Kylian Mbappé et avec deux absents majeurs en défense centrale, à savoir Samuel Gigot et le meilleur défenseur central du championnat qui est Chancel Mbemba. Pour moi, il y a tout d'être le match, ce match, ça a tout d'être un match très très piège. Et malheureusement, alors évidemment, si tu perds ce match-là, bon, t'es toujours qualifié en Coupe de France, t'auras pas tout perdu sur le reste de la saison, mais pour moi, ça peut être un vrai tournant parce que derrière, Monaco revient très fort et tu perds face à un concurrent direct. Donc attention, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'excitation autour de l'Olympique de Marseille. Il faut aussi se rendre compte que ce match-là, si tu le perds, ça peut être un vrai coup dur à l'instant T, et je pense aussi sur le reste de la saison.
Alors, pour Tudor, en tout cas, lui, il a mis la pression, je ne sais pas si vous avez entendu, au Paris Saint-Germain, en expliquant que, honnêtement, avec Messi, Neymar, Ramos, Marquinhos, il devrait gagner tous les week-ends. Donc, lui, mais il a intelligemment mis toute la pression sur le coach adverse.
C'est pas du tout pour ne pas être d'accord avec Jonathan, mais...
Mais tu n'es pas d'accord avec lui.
Moi, je trouve que l'OM n'a aucune pression dans ce match. Alors bien sûr, ils ont la pression de remporter un classique, remporter un gros match au Vélodrome face au rival, etc. Mais pour moi, la grosse pression, elle était en Coupe de France. En championnat, ce qu'il arrive à l'Olympique de Marseille, c'est que du bonus, là. S'ils arrivent à battre le Paris Saint-Germain, ils reviennent à deux points, ils sont à fond dans la course, ils mettent une pression énorme sur les Parisiens avant leur retour de Ligue des Champions, ils leur mettent la tête sous l'eau, alors que, comme dit Igor Tudor, le Paris Saint-Germain, et il a raison, normalement, avec cet effectif, et on sait que tous les matchs de foot sont compliqués, c'est pas une science exacte, mais normalement, avec cet effectif, tu dois remporter, peut-être pas tous les matchs, mais un grand nombre de matchs. Et c'est pas ce que fait le Paris Saint-Germain depuis le retour de la Coupe du Monde, loin de là. Donc moi je suis d'accord avec Igor Tudor, la pression elle est sur le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille doit tout faire pour s'imposer, mais l'Olympique de Marseille s'il ne battait pas le PSG, ce serait juste la logique en fait. La logique, ce qu'on a vu dans le classique en Coupe de France, mais c'était catastrophique de la part du Paris Saint-Germain. Tu peux pas proposer ça même sans Kylian Mbappé dans un classique.
Mais si tu
dans
perds, un match, tu regardes derrière.
Mais si tu perds, bah si tu perds,
c'est
tu
c'est
vas,
ça,
si
c'est
tu
ça,
perds, tu sais que le titre entre guillemets c'est mort, mais de toute façon ça n'a jamais été vraiment ton objectif.
Ça, pour le coup, je t'en
donc
ouais.
Tu sais que tu vas te battre avec Monaco et avec Lens pour les deux autres places. Voilà, voilà ce qui va se passer si tu perds. Mais tu vas revenir dans une forme de normalité et déjà
après,
si
y a
tu
la
finis
façon
deuxième,
aussi dont on
ça
perd,
reste
hein, c'est
bien
ça,
sûr.
Aussi, hein, non, ça dépend aussi du déroulé du match. Quand
moi,
même.
Vous allez me dire, mais je pense que je dramatise un petit peu.
T'as peur.
Le fait de finir troisième et pas second. Pour moi. Quand t'es l'Olympique de Marseille avec la situation économique qui est la tienne, oui, même si ça va mieux depuis que Longoria est arrivé, finir troisième, c'est un drame. C'est un drame pour ton mercato, c'est un drame pour ta préparation, c'est un drame pour la manière dont tu vas recruter. Et je pense pas que tout de suite, à l'instant T là, cette saison-là, cette intersaison qui arrive, Marseille ait les reins et les épaules assez solides pour pouvoir absorber ce choc-là. Monaco est capable de le faire parce que Monaco, financièrement, il y a une base qui est quand même un petit peu plus large, un petit peu plus, tu vois, en termes de budget, en termes de moyens, tu peux encaisser ce coup-là. Pour Marseille. Finir troisième, c'est à mon sens une vraie galère. Donc pour ouais, moi, quand je regarde, quand je te dis que pour moi Marseille peut perdre beaucoup de choses, c'est pas par rapport au PSG, Kevin, évidemment. Moi pour moi le titre, c'est espéré, c'est du bonus.
T'as vu Monaco hier ?
C'est par rapport. Oui.
Ils sont capables de perdre des matchs aussi. Hein.
Écoute Kev, c'est par rapport à Monaco et par rapport à Lens, et justement l'élimination de Monaco de cette coupe d'Europe oui. Pour moi, c'est une vraie mauvaise nouvelle pour l'OM. Donc cette semaine, il y a eu beaucoup d'enjeux. Il y avait le fait que Monaco se qualifie ou pas. Bah Monaco s'est fait éliminer, ça arrange pas les affaires de Marseille. Il y a le fait que il y avait encore un micro espoir que Samuel Gigot soit présent. Bon bah il ne sera pas là. Il y a le fait que Mbappé revienne et il y a surtout le fait que Monaco va jouer contre Nice et je vois Monaco même s'ils ont pas été brillants s'imposer. Lens en déplacement à Montpellier, c'est pas non plus le déplacement le plus compliqué à l'extérieur en ce moment. Donc tu pourrais te retrouver, tu vois, je fais de la fiction, mais à la fin de la journée avec Marseille qui repasse quatrième. Et ça pour moi ça serait très compliqué.
Après quoi qu'il arrive la saison sera longue et très très rapidement, mais tu viens de dire que c'est pas une bonne nouvelle pour l'OM l'élimination de Monaco, mais en fait l'élimination des trois clubs français et de ce jeudi noir, c'est une très très mauvaise nouvelle pour le football français.
Bah oui.
Parce que moi je le dis depuis des années quand on me dit ah ouais mais elles sont où les équipes portugaises, elles sont où les équipes néerlandaises, mais vous allez voir ce que c'est si un jour on a que deux qualifiés pour la Ligue des Champions. Ça va nous faire drôle hein.
Ah, parce
que
là ça va vous faire, t'as dit, attention hein.
Oui ça va vous faire,
ah oui, tu parlais français.
Oui mais à ceux qui ne comprenaient pas pourquoi certains pays avaient plus de difficultés en Europe.
Non mais tu as raison, ça c'est très très dangereux pour nous
là, les Pays-Bas là s'ils font une bonne campagne. Évidemment. Heureusement l'Ajax a été éliminé, mais si le PSV aussi. Mais si je crois qu'il reste la Z Alkmaar
et Feyenoord.
Voilà, si c'est deux belles équipes, c'est les deux premiers au classement d'ailleurs, la Z et Feyenoord.
Il y en a aussi, il y a Porto, et donc il y a
franchement c'est chaud. Mais bon.
Bon, on va prendre Thomas qui a fait le 32-16 qui est venu nous rejoindre dans l'after pour parler justement de ce match entre l'Olympique de Marseille et le PSG. Salut Thomas.
Salut Thomas.
Salut les gars, très content d'être avec vous.
Salut Thomas.
Je vous appelle pas
content,
forcément aussi. Pour le match au MPG, après si vous voulez je peux en parler hein. Je vous appelle pour la reconversion de Jonathan Macardy, surtout.
Il t'écoute.
J'ai appris qu'il s'est reconverti. Alors, c'est vrai que j'ai vu tes talents de MMA, hein, ça c'est vrai. Mais je t'appelle surtout pour ta reconversion, parce que je crois maintenant que tu es devenu le gérant du PMU de Saint-Germain-des-Prés, c'est ça ensemble. Parce
pourquoi
que
tu
tes
dis
analyses,
ça
là, tes analyses sur Balerdi, c'est digne du PMU, quoi. Hein. Il y a rien d'autre à dire, c'est-à-dire.
Balerdi, alors, explique-moi. Allez.
Qu'est-ce qui t'a pas plu dans ce qu'il a dit sur Balerdi?
Alors, j'ai pas écouté, justement. Je remercie mon ami Nico qui m'a informé. Il m'a dit, oh, c'est bon, Jonathan, il a encore détruit Balerdi.
Bah, c'est un peu con, alors, si t'as pas écouté, de me dire que les analystes sont dignes du PMU. C'est dommage.
Thomas, vas-y.
C'est ce que je veux dire.
Qu'est-ce que tu
pour
penses
le coup, c'est
de
une réplique de PMU, ça.
Non, mais j'ai pas écouté aujourd'hui, mais j'ai écouté toutes tes interventions.
Ah, ça va. Alors.
En fait, moi, je t'aime beaucoup. Moi, je t'adore, tu vois. Je vais être honnête. Mais dès que tu parles de Balerdi, d'un coup, c'est plus le même Jonathan. C'est le Jonathan PMU qui, de 2h du mat, qui dit n'importe quoi. C'est-à-dire, j'entends toujours la même chose sur Balerdi, donc c'est toi, Dimeco, un peu Kevin Diaz aussi, mais encore Kevin Diaz, je le trouve un peu plus...
Non, tu peux me mettre dedans, il n'y a pas de problème.
Sur le sujet. Mais on est là, oui, Balerdi, il coûte tellement de buts à l'OM, il fait tout le temps des erreurs dans les matchs. Alors, je suis d'accord, sur les 2-3 derniers matchs, il est moins bon. Mais attends, là, on va dire de novembre, allez, même pas octobre, d'octobre à février, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Balerdi? J'entends, oui, il coûte tous les buts de l'OM, etc., c'est Balerdi, etc. Contre Tottenham, les deux buts qu'on encaisse, là, c'est qui? les deux buts qu'on encaisse au Tottenham Stadium. Là.
Tu le trouves bon, toi, contre Tottenham, vraiment? Tu l'as trouvé rassurant, bon, serein dans les duels, bien dans les placements, un vrai atout pour la défense quand tu prends le match de Tottenham, je te demande.
Le match de Tottenham, ça dépend de qui tu parles. Le match aller, il joue pas.
Le match aller, il joue 40 minutes, mais le match retour, le dernier au Vélodrome.
Non, le match retour, il était dans le collectif, il était très.
Moi, j'ai trouvé moyen, bon. Mais ok, alors admettons. Mais sinon.
Contre Francfort, tu as dit qu'il avait le niveau pour jouer la Ligue 2. Attends, honnêtement, Jonathan.
Ah, contre Francfort, écoute, mon poulet, j'étais au stade en loge, donc j'étais très près de la pelouse.
À côté de toi, en plus, c'est pas loin.
Comment?
Il était au stade aussi.
J'étais tribune à côté des journalistes.
J'étais très près de la pelouse, je te jure que, franchement. J'ai regardé un œil très attentif sur lui. Moi, ce qui me choque le plus, c'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est-à-dire où parfois il fait des erreurs directes et des cagas qui coûtent des buts. C'est pas forcément des actions qui coûtent des erreurs et qui amènent une occasion franche pour l'adversaire. C'est vraiment dans le placement. Je trouve qu'il est pas serein. Tout le match, ses coéquipiers et Rongier notamment ont passé. Et Rongier qui a pas fait un bon match non plus contre Francfort, hein, mais qui avait passé son temps à le replacer, à lui dire mets-toi là, ça va pas. Il y a quand même des vraies lacunes sur ce point-là. Tu peux pas me contredire là-dessus, qu'en termes de placement,
il a
beaucoup à apprendre, notamment sur comment jouer le hors-jeu, c'est quand même un basique, il le fait très mal.
Non, mais il a des choses à améliorer, j'ai jamais dit l'inverse. Après, n'oublie pas qu'il vient à l'OM, il a 14 matchs en professionnel. Il en a 10 à Boca Junior, 4 à Dortmund. Le reste, il n'a aucun match en professionnel, il est très jeune. Donc, c'est normal pour un joueur de cet âge-là, avec aussi peu d'expérience, dans un club comme l'OM, il apprend. Donc,
oui, il apprend. Mais est-ce que pour toi, il a le niveau d'être titulaire?
Alors, quand tu vois les autres joueurs qu'il y a, c'est-à-dire si Bailly il a son meilleur niveau, si Mbamba est là, oui. Malheureusement, il n'est pas là contre Paris. Si Gigo est là, pour moi, Balerdi n'a pas de niveau.
Alors attends, je te repose la question parce que la question, non, il a raison, c'était trop facile de me répondre ça. Je te repose la question. Est-ce que pour toi, Balerdi à le niveau d'un joueur que l'Olympique de Marseille a acheté plus de 10 millions d'euros et qui est dans la rotation régulière d'une équipe qui joue la Ligue des Champions et qui joue le top 2, top 3 en Ligue 1. Très franchement.
Dans la rotation, il a largement le niveau de l'OM. Le dis honnêtement.
Alors, moi, je repose une question à son profil, Thomas. Une dernière question, Thomas, sur Balerdi, du coup, puisque c'est quand même ça qui nous a fait amener à parler de Balerdi. Est-ce que Balerdi, contre le PSG, tu l'alignes? Avec les blessures que l'on a et les suspensions.
On n'a pas trop de choix, malheureusement.
Il a donné une option, François a donné une option sans Balerdi.
C'est l'option Rongier, qui n'est pas mon option, mais c'est une option qui est travaillée.
En tout cas, si Balerdi était si bon que ça, il n'y aurait pas d'option Rongier. Rongier resterait au milieu et Balerdi jouerait défenseur.
On verra le choix que va faire Tudor, effectivement.
Après, moi, ce que tu as dit tout à l'heure, moi, pour moi, c'est quand même un souci, quoi. Le fait qu'il ait une dizaine de matchs en Argentine et deux matchs à Dortmund, alors qu'on sait qu'en Bundesliga, tous les jeunes joueurs, les Français qui arrivent là-bas, dès qu'ils sont, s'ils ont des qualités, ils jouent. Pour moi, c'est vraiment pas gage de réussite. Je suis désolé. Sachant que Balerdi, tu m'arrêtes si je me trompe, il a une sélection, non?
Oui, mais ça, c'est un truc d'agent.
Voilà. Donc,
un truc d'agent.
Oui, mais c'est un truc d'agent. Le truc d'agent, il marche pour la sélection, il marche pour les clubs aussi, je te le dis. Hein.
Bon, après, vous dites pas que c'est un mauvais joueur. Vous dites juste
je dis pas que c'est un mauvais joueur.
Quand on fait le rapport qualité-prix, valait mieux garder Lucas Perrin. Je te dis pas non, que Lucas Perrin c'est un meilleur joueur que Balerdi, mais Lucas Perrin, il était gratos. Tu vois ce que je veux dire?
Peut-être. Ça c'est pareil, ça c'est encore la.
Attends. Juste, alors Thomas, par contre, tu vas me faire le plaisir de bien écouter ce que j'ai dit. J'ai dit que Lucas Perrin n'était pas un meilleur joueur que Balerdi, mais qu'en termes de rapport qualité-prix, de construction de l'effectif, je préférais garder Lucas Perrin gratuit formé au club que de mettre 11 millions d'euros sur Balerdi. Est-ce que ça, tu peux l'entendre?
Ben, je peux l'entendre, alors ça s'entend.
Tu vois la nuance? J'ai pas dit que Perrin était meilleur que Balerdi, attention, hein.
Je crois qu'il a compris.
Mais quand Perrin était là, tout le monde le critiquait aussi. Tout le monde
non, c'est pas vrai.
Il aura jamais niveau pour l'OM.
Mais c'est pas vrai. Parce qu'il a dit ça, c'est pas vrai.
On était très exigeant avec lui, on le comparait à Camara et tout, tu te rappelles pas quand même.
Non, ça, pour toi, tu l'as rêvé. Il y a beaucoup de gens qui étaient même trop gentils, je trouve, avec Lucas Perrin.
On n'arrivera pas à vous mettre d'accord sur Balerdi, mais c'est vrai, Thomas, qu'il y a eu un Balerdi bashing, c'est vrai. il y a eu un Balerdi Bachning.
Pour moi, tu sais à qui me fait penser? Et c'est pas péjoratif quand je dis ça. Il me fait penser à Ronald Zubar. Parce que Ronald Zubar, il faisait des matchs où pendant 89 minutes, t'as l'impression que c'était un défenseur venu d'ailleurs avec des qualités athlétiques, avec une sens de l'anticipation, une rapidité, une vitesse, une densité physique qui était de très haut niveau. Et puis il y avait la minute où il faisait n'importe quoi. Et Guérez devenait fou, le regardait en se prenant la tête entre les mains et ça coûtait un but à Marseille.
Moi, je pense surtout que, et à chaque fois que je pense à lui, que je pense à Balerdi, je pense à Doria. Doria, c'est un joueur qui s'est retrouvé à l'Olympique de Marseille. Ouais, il s'est retrouvé à l'Olympique de Marseille, mais qui n'avait pas le niveau. Il n'avait pas le niveau, et ça, Bielsa l'avait vu. Oh,
t'es sévère, là, Kev.
Bah si, Bielsa l'avait vu.
Bah non, mais Doria, c'est quand même grave.
Ouais, d'accord. Balerdi, mais il était bien l'OM. Kev. Bah, il n'avait pas le niveau.
Oui, mais Balerdi a quand même un petit peu plus sa place à Marseille que Doria, quoi.
Non, mais t'as beaucoup plus vu Balerdi que Doria.
Dorian, on l'a vu un moment. Hein. Tu te rappelles quand il marque contre lui en Coupe de France en faisant le geste du sel là avec Rudy Garcia?
33 matchs avec Marseille, Doria. 2 buts.
Ouais. C'était une catastrophe.
2 buts.
Il joue où?
Faudrait que je m'enchaîne parce que ça s'est arrêté en 2018. Il était au Mexique à Santos Laguna. Je vais voir s'il y est encore.
Parce qu'après,
je me renseigne. Mais d'abord, je voudrais remercier Thomas. Merci Thomas, de nous avoir permis de rappeler le souvenir de Doria. Merci beaucoup. Tu avais quand tu veux dans l'after.
Il m'envoie un message. Il me dit, Balerdi, il est très bon pour le tirage de maillot.
Moi, il y a un truc qui me fait rire et ça me fait penser à vous rappeler de Karim Rekik.
Oui, ah oui,
Karim Rekik, c'est un joueur qui est formé aux Pays-Bas, néerlandais, mais pas le niveau pour l'Olympique de Marseille. Au moment où il était à l'OM, mais
il a fait sa carrière après.
Bien sûr, il a joué longtemps à Séville, etc. Mais c'est pas un mauvais joueur. Mais on peut quand même considérer qu'un joueur n'a pas le niveau pour jouer la Ligue des Champions tous les week-ends.
La hype qu'il y avait quand il est arrivé, lui, c'était phénoménal.
Karim Rekik,
c'est ça.
Karim Rekik.
On va prendre Romain qui a fait le 32-16. Dans l'after. Salut Romain.
Bonsoir, vous m'entendez?
Ouais, on t'entend très bien, supporter de Marseille.
On parle du classique ou de Balerdi là?
On va parler du classique quand même. Hein. Vas-y Romain, on va pas parler de Doria et de Rekik.
J'ai appelé pour Balerdi dans le classique.
Vas-y, on t'écoute.
Non, moi je voulais poser une question à Jonathan et à Kevin surtout. Est-ce que Balerdi, bon là on a entendu, je crois que c'était Thomas qui disait que Jonathan il dit n'importe quoi et tout sur Balerdi. Moi, la question, c'était, est-ce que Balerdi, il n'a pas le profil idéal, même si, bon, il n'est pas très apprécié chez vous, mais est-ce qu'il n'a pas le profil idéal pour jouer contre le PSG? Parce que même si, bon, il coûte des buts, il fait des boulettes et tout, mais il va quand même vite, il est quand même athlétique. Est-ce qu'il n'a pas le profil idéal pour jouer contre le PSG avec Mbappé surtout?
Moi, je vais te répondre. Ce que j'ai dit en préambule, c'est que oui, sur le papier, avec sa vitesse, avec son sens de l'anticipation qui est relativement correct et le fait que justement, je le répète, qu'il aille vite, ça peut être intéressant face au PSG. Mais le problème, c'est que quand tu as, je répète encore, en face de toi un joueur à surveiller comme le lait sur le feu en la personne de Kylian Mbappé, tu peux pas te permettre de mettre sur le terrain un joueur qui est sujet à des sautes de concentration.
Pour moi, le seul Marseillais qui aurait les capacités physiques, mais attention, je ne dis pas qu'il a les capacités défensives, notamment d'alignement ou de marquage, mais le seul qui est défenseur, en tout cas sur la feuille de match, qui est dans les 5 de derrière, c'est Nuno Tavares. C'est le seul qui a l'explosivité et la capacité de courir et d'arriver à tenir Mbappé un peu à l'image, sans avoir la moitié du talent de Walker et de son explosivité et de sa puissance.
Mais le problème, c'est que Nuno,
défensivement, c'est compliqué.
En termes de rester concentré sur 90 minutes.
On est d'accord.
Là, tu vois, contre Toulouse, il marque, etc. Mais son match, il est dégueulasse. Hein.
On est d'accord. Non, dégueulasse, je trouve ça dur.
T'as vu ses stats?
Oui, mais c'est quelqu'un qui crée du danger.
Le nombre de pas perdus, de duels perdus.
Cette inconstance, elle est aussi perturbante pour l'adversaire.
Tu sais, le nombre de duels défensifs perdus, ça reste quand même. Tu l'as dit, un piston, mais il faut quand même défendre un minimum.
Je suis d'accord.
Et dans les duels, il y a un vrai problème. Moi, écoute, je suis à deux doigts de penser que pour ce match-là, je suis pas sûr de mettre Tavares titulaire. Hein. Moi, j'aime bien l'option avec Klose à gauche et Under côté droit aussi. Hein.
Mais c'est Under qui avait été très bon d'ailleurs dans le.
Après, je suis quand même assez triste. Mais j'aurais quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont foutus de ma tronche. On mange pas où Samuel Gigot est arrivé, où il a eu sa petite période de creuse, qui est tout à fait normal pour un mec qui a passé sa carrière à l'étranger, qui apprenait à découvrir la Ligue 1. J'espère qu'il regardera ce match confortablement installé dans les tribunes du stade Vélodrome, avec dans sa poche la tête de Neymar et la tête de Lionel Messi, quoi. Parce que depuis le match de la Coupe de France, il les a toujours. Voilà, il a les deux scalps.
En tout cas, non mais c'est vrai que
c'était incroyable. Tu vois que c'est un vrai supporter quand il met la main en fait.
Ce qui est amusant, c'est que Samuel Gigot, c'est vrai que là, on en parle comme d'un coup dur. son absence, c'est un coup dur.
C'est amusant.
Non, mais attends, c'est un bon joueur. Le mec, il a joué en Russie, quand même.
Par rapport à toutes les critiques qu'on a entendues sur lui au tout début,
moi, je vais te dire pourquoi les gens l'ont critiqué. C'est parce qu'il a fait 3 mauvais matchs. Qu'il a un style qui est pas très élégant à voir, on va pas se mentir.
Mais on peut aussi dire qu'il est en progrès.
Et qu'il a un nom. Et non, mais va pas chercher trop loin. C'est juste que les gens sont un peu bébêtes. Il a un nom rigolo.
Oui, oh,
c'est non, les gens, il y a d'élite sale gueule. Non, oui, mais d'élite sale gueule. À cause du nom.
Bon.
C'est quand même abusé, quoi.
On va remercier Romain. D'élite Romain, t'as un dernier mot à dire, peut-être, sur ce classique, quand même?
Ouais, Jonathan, il disait qu'il était pas sûr de mettre Nuno Tavares titulaire.
Ouais.
Mais le problème, c'est que si tu veux pas mettre Balerdi titulaire, donc tu veux faire reculer Rongier, et que tu veux mettre Tavares sur le banc, ça ferait Klos et Under en piston, mais ouais, derrière Sanchez, du coup, tu peux, comme t'as Guendouzi qui recule, si t'as rangé derrière, dans le demi-espace droit ou même dans le demi-espace gauche derrière Sanchez, tu peux pas mettre grand monde à part.
Bah si, t'as Malinovski et Guendouzi.
Non,
Guendouzi qui sera au milieu.
Tu peux mettre Malinovski. Alors Unai a pas été bon non plus, donc ouais, c'est compliqué de le relancer comme ça.
Ah, mais Unai, c'est l'envoyer au feu quand même là.
Ouais.
Non, mais t'as raison.
Et tu sais, j'ai même ajouté un truc. Il y a un joueur qui a un progrès à Marseille. C'est Issa Kabore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais sur ses entrées récentes, alors qu'il avait été très en difficulté auparavant, tu sens que ça commence à rentrer, qu'il est concentré, discipliné.
Pas loin de le mettre dans la case Balerdi quand même.
On l'a pas assez.
Joueur de devoir, mais pas sûr qu'il est.
Qu'est-ce que nous dit Bruno? Tiens, pourquoi pas Caboret sur l'appli RMC Direct Studio? Bon, on va remercier Romain, en tout cas. Merci beaucoup d'être passé.
Salut Romain,
quand tu veux, bien sûr. On continue de parler de ce classique tout au long de ce week-end jusqu'au coup d'envoi, bien évidemment. On reparlera plus longuement du Paris Saint-Germain. Là, on s'est étendu puisque c'était l'avis de Jonathan sur l'Olympique de Marseille. Je voulais juste vous faire écouter Christophe Galtier. C'était tout à l'heure.
On a le droit de perdre.
En conférence de presse où il ne parle pas de revanche par rapport à la Coupe de France.
Sur un plan personnel, non, il n'y a pas de revanche. Il y a surtout à préparer l'équipe du mieux possible, à avoir le meilleur plan de jeu face à cette équipe-là. Est-ce que mes joueurs sont revanchards? J'ai quand même beaucoup de personnalité, de caractère et d'orgueil dans ce groupe-là. Et évidemment que l'orgueil sera un élément important par rapport à notre élimination là-bas.
Pas de revanche, mais de l'orgueil quand même. Donc voilà, bon. Est-ce que vous pensez que l'orgueil suffira pour le PSG?
Il y en a un qui a de l'orgueil, et ça j'en suis sûr, c'est Kylian Mbappé.
Ouais.
Et forcément,
il me fait très peur pour dimanche.
Ah bah bien sûr, de toute façon, tu sais que l'OM c'est une équipe. Après, attention, parce que Igor Tudor, il est capable de changer son plan de jeu. Il est capable de s'adapter, de jouer peut-être un bloc médian plutôt qu'un bloc très haut.
Tu l'as déjà vu une fois cette saison, ça?
Non, mais je parle pas d'un bloc bas, hein, je parle d'un bloc médian.
Oui, mais même médian, tu l'as vu une fois, ça?
Non, je l'ai pas vu, mais t'as pas encore joué beaucoup contre Kylian Mbappé quand même. Parce que Kylian Mbappé ou pas, quand il démarre, et il est tout simplement inarrêtable sur 30 mètres.
Face à Heung-Min Son. Et jouer tout le temps avec un bloc super haut.
Après, oui, tu peux aussi considérer que pour contrer Kylian Mbappé, il faut absolument empêcher la première relance. C'est possible aussi, hein. Voilà, maintenant, tu sais qu'une ou deux fois, il va falloir prier parce que le ballon, il va arriver une ou deux fois quand il arrive.
Faudra que Paul Lopez soit en forme.
Ouais, faudra que Paul Lopez joue comme à la Sampaoli. D'ailleurs, il le fait. C'est-à-dire très, très loin de sa cage.
Et faudra qu'Alexis, bien récupérer parce que je l'ai trouvé très émoussé contre Toulouse. Très très fatigué, ce qui est normal.
Il peut être normal.
Mais c'est un homme des grands matchs, Alexis.
Voilà, on va espérer ça.
Non, mais ça va être super. Ça va être un bon match parce que il y a de la tactique, il y a des choses à régler pour les deux entraîneurs. Il y a des problématiques qui vont se poser pour l'Olympique de Marseille avec la vitesse d'Mbappé, mais également pour le Paris Saint-Germain avec le pressing des Marseillais.
Question subsidiaire qui en dit long sur l'état des deux clubs. Pour vous, quelle est l'absence la plus grave? L'absence de Samuel Gigot ou Chancel Bamba pour l'OM ou l'absence de Neymar pour Paris?
Non, mais c'est clairement l'absence des défenseurs marseillais qui ont une profondeur.
Vous vous rendez compte à quel point Neymar maintenant il est pas là, limite on est content quand on est parisien.
Moi je suis pas content
aussi du monde du côté du PSG.
Je continue de penser
que il y en aura que 2 sur 3. Voilà, comme on demande depuis le début.
Le problème c'est pas Neymar, Messi. Le problème c'est que quand il y a les 3 sans le ballon, c'est quasiment impossible de défendre au très haut niveau.
Bon, on en reparlera bien sûr de ce classique, donc de ce Olympique de Marseille Paris Saint-Germain.
T'as un prono ou pas?
Je ne donne jamais de prono.
T'as un prono, quel?
Non, je ne donne pas de prono là-dessus.
Écoute,
j'attends de voir
le un but partout.
Un but partout
ou 2 partout?
Ouais, 2 partout, c'est pas mal. Bien, voilà, moi je prends le. Et toi?
Moi j'ai peur sur ce match, mais on va dire que j'espère une victoire.
Oui, bah, c'est pas un prono ça.
Une victoire 3-2.
Oui.
Mon prono c'est 3-2.
3-2, mais tu dis 3-2 pas pour
Marseille avec un doublé de Mbappé parce que forcément.
Ah oui, bah, c'est précis.
Voilà. Okay. Mais j'espère que Malinowski va nous remettre un bon petit missile.
On aura un match de grande qualité, surtout. Et qu'on va se régaler. Et on aura l'occasion, je vous l'ai dit, d'en reparler. Allez.